autour de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, amis auditeurs, avec Nicolas Benita à la réalisation, pour remonter le cours d'une vie, une vie consacrée à la recherche et à la transmission, une vie ouverte sur le grand large, à l'écoute des autres, et de toutes les petites voix intérieures et extérieures qui l'ont guidée, qui pourraient bien nous inspirer. Rencontre avec le physicien Yves Quéré, l'un des fondateurs de la main à la pâte, grand humaniste, homme engagé, formidable éveilleur de curiosité, qui vient de publier Un coquillage au creux de l'oreille, une autobiographie vagabonde et mélomane qui nous entraîne sur les chemins de traverse qui font précisément le sel de l'existence autour de la question comment répondre de sa vie et de ses engagements. Bienvenue. Bonjour Yves Quéré.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous. C'est un plaisir de recevoir le savant humaniste que vous êtes, physicien, professeur et directeur de l'enseignement à l'École Polytechnique. Vous avez consacré vos recherches aux interactions entre particules et matières, médaille d'argent du CNRS. Vous êtes aussi fondateur, avec le prix Nobel Georges Charpak et Pierre Léna, de la main à la pâte, réseau international pour refonder l'enseignement de la science à l'école, la transmission du savoir, des connaissances, mais aussi la transmission des choix et des engagements que l'on prend au cours d'une existence bien remplie. Vous avez plus de 86 printemps déjà, oui, je crois, Yves Quéré. Vous tient particulièrement à cœur. Vous nous faites partager un peu de votre libre parcours dans un ouvrage inspirant qui vient de paraître aux éditions Odile Jacob. Nous avons d'ailleurs un exemplaire à vous faire gagner, amis auditeurs. Il s'intitule « Un coquillage au creux de l'oreille ». Joli titre pour une autobiographie ou presque vagabonde et à l'écoute, c'est ça Yves Quéré? Expliquez-nous ce titre.
Oui, c'est vrai. Écoutez, quand j'étais enfant, mes parents m'emmenaient sur le bord de la mer et ils me disaient, prends un coquillage, on en trouve partout bien sûr sur la plage, et mets-le dans son oreille, tu entendras l'océan. Et puis alors j'ai fait ça, et bien sûr j'ai entendu l'océan, j'ai cru entendre l'océan, et puis petit à petit j'ai cru entendre d'autres choses, j'ai cru entendre des voix lointaines, c'est l'aspect toujours un peu poétique des enfants, et ça m'est resté. Évidemment, il n'y a pas d'océan dans la coquille, il n'y a pas de voix, mais l'image m'est restée, si bien que quand j'ai en effet rédigé ces quelques pages, un peu autobiographiques, eh bien c'est ce titre qui m'est venu à l'esprit. Voilà, laisse écouter au fond un petit peu sa vie dans un coquillage.
Écouter sa vie dans un coquillage, écouter la musique, les musiques aussi, parce qu'elles jouent un rôle important dans cette, oui, autobiographie vagabonde, qui s'arrête sur des instants forts, mais pas toujours, qu'on ne mettrait pas toujours en avant. La musique a une place importante.
La musique a une place importante, elle l'a eu dès ma jeunesse. J'avais des parents, en particulier une mère très très bonne, très excellente violoniste, un père très très mélomane, et donc dès ma naissance et même peut-être avant, j'entendais les partitas de Bach, les airs bohémiens de Sarrasate, etc. J'ai entendu la musique toute mon enfance et j'en ai fait très très tôt. Donc elle a joué. Alors ça ne suffit pas. Il a fallu aussi que petit à petit je me passionne pour la musique, bien sûr. Et elle a joué un rôle important dans ma vie. Ça, c'est vrai.
Un rôle important dans votre vie de physicien autour de la question comment répondre de sa vie, c'est aussi, Yves Quéré, répondre à toutes les questions qui nous assaillent et qui assaillent peut-être encore plus les chercheurs comme vous.
Pas plus, non, je ne crois pas. Je crois que ça devrait assaillir tout le monde. On a longtemps décrit la vie, les vies comme des longs fleuves tranquilles, n'est-ce pas, ou plus ou moins tranquilles, mais enfin, comme quelque chose de linéaire, ou un chemin qu'on parcourt, ou bien quelque chose qui ressemble au soleil qui sort le matin de l'horizon, qui monte et qui redescend, n'est-ce pas. Les vies seraient comme ça, un peu, c'est l'image qu'on avait, moi que j'ai toujours eu un petit peu, qu'elles seraient linéaires, comme sur un fil. Or, ce n'est pas vrai du tout. C'est ce que vous disiez à l'instant, ce sont des routes qu'on croise et sur lesquelles à chaque instant il faut faire des choix.
Alors, je propose d'écouter une route, une voix qui vous a particulièrement inspiré. Une voix, on peut l'entendre VOIX comme VOIE. C'est celle d'un autre chercheur passionné, passionnant, à l'esprit libre et ouvert, le prix Nobel de physique Georges Charpak, avec qui vous avez lancé l'association La Main à la Pâte pour éveiller les enfants à la science dans les écoles du monde entier, éveiller peut-être à l'émerveillement, à la liberté de chercher. On écoute Georges Charpak et vous réagirez ensuite, Yves Quéré.
Ma première envie de pleurer devant la science est venue quand j'ai lu ce qu'était la relativité. C'est merveilleux, la relativité. On a envie de se mettre à genoux et se dire, c'est chouette d'être un homme, c'est chouette qu'on ait trouvé ça. Vous voyez, c'était merveilleux. J'ai eu la chance de rentrer dans la grande chasse à ce qu'était la matière réellement. Je me suis bien amusé, parce que j'étais libre, totalement libre. Le rôle des scientifiques, c'est de ne pas être attaché avec des ficelles et d'être obligé d'être des gens polis qui disent ce qu'on attend d'eux. Les scientifiques doivent être les bouffons du roi. Ils doivent pouvoir dire la vérité, même si elle blesse.
Vous partagez la vision, les propos de ce chercheur, Georges Charpak, prix Nobel de physique.
Bien sûr, d'abord, je dois vous dire que c'est très émouvant d'entendre sa voix. J'ai travaillé avec lui et avec Pierre Léna pendant des années. Nous nous voyons presque tous les jours, pratiquement. Donc, réentendre sa voix, cette belle voix, réentendre cet homme qui avait un charme extraordinaire, le charme de l'intelligence, c'est très émouvant. Alors, ce qu'il dit, bien sûr, c'est la liberté totale. C'est la liberté. Et la science nécessite, la liberté nécessite de revenir en arrière, de critiquer ce qu'on a fait soi-même et peut-être ce qu'ont fait les autres pour aller plus loin. Et c'est ce qui fait que le scientifique est tellement sensible aux atteintes aux droits de l'homme. Vous voyez, il y a un lien très très fort qui fait que du temps de l'Union soviétique, mais aussi des dictatures sud-américaines, etc., et maintenant encore, je ne citerai pas de pays, il y a beaucoup de pays où la liberté est évidemment complètement niée, et c'est tellement contraire à l'idée de la science que nous réagissons.
Vous réagissez, vous avez aussi employé un autre mot qui est celui de la sensibilité. C'est bien plus sensible qu'on ne le pense, un chercheur. La science, souvent, on la voit froide. Évidemment que c'est sensible.
Non, mais dès qu'on a entendu Georges Charpak à l'instant, on voit bien qu'elle ne s'est pas froid. Au contraire, il y a un mot qui est sorti de sa bouche, mais qui va de soi, c'est l'émerveillement. Vous voyez, il parlait d'émerveillement, mais c'est un mot qui plane au-dessus de toute la science. On est émerveillé. Non pas tellement par ce qu'ont fait les hommes, je crois qu'il y a des cas, il parle de la relativité, c'est un cas où on peut être émerveillé, mais il est émerveillé par la nature d'abord. La nature est extraordinaire, donc s'intéresser à la nature, l'étudier, est passionnant bien sûr, mais c'est aussi une école d'émerveillement.
École d'émerveillement dans ce livre, un coquillage au creux de l'oreille, on voit bien qu'il y a la nature aussi là-dedans. Vous commencez par un éloge de la sobriété, Yves Kéré. La sobriété, Pierre Rabhi parle de sobriété heureuse, hein, ce sont des mots qui devraient revenir, qui reviennent aujourd'hui, justement résonner à nos oreilles.
Oui, alors il y a un petit lien avec la science. La science, on dit toujours que les démonstrations, même on dit ça même déjà au collège ou au lycée, les démonstrations devraient être les plus simples possibles. Donc il y a une certaine sobriété dans la science, mais mon propos ici est beaucoup plus général. C'est-à-dire que nous vivons dans un monde qui est très excessif. Alors il a des excès épouvantables, je ne parle même pas d'eux, mais simplement dans notre langage, dans notre façon de voir, dans ce que nous disons. Je prends un exemple qui est celui du superlatif, le plus. Vous voyez, c'est absurde cette façon que nous avons de parler sans arrêt du le plus remarquable. Par exemple, l'homme le plus remarquable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'a aucun sens. C'est un homme remarquable, peut-être, dont nous parlons, une femme, mais le plus remarquable du monde, en plus, on dit souvent ça. Voilà. Alors, soyons donc un peu calmes, soyons un petit peu modestes. C'est une des autres incidences de la science. Elle nous oblige à être modestes. Je ne dis pas du tout que les scientifiques sont tous modestes, il y en a qui sont arrogants, mais la science devrait nous inciter à la modestie. Donc à la sobriété.
Parmi toutes les voies hein, qui vous ont inspiré à la sobriété, à la transmission et à la musique aussi, on y revient, le chercheur mélomane que vous êtes est très inspiré par le chef d'orchestre José Antonio Abreu, fondateur des orchestres El Sistema au Venezuela, des bidonvilles aux salles de concert du monde entier. Emmanuel Bastide sur RFI le rappelait ce matin dans son émission, El Sistema a formé plus d'un million d'enfants des bidonvilles à la musique orchestrale, et ces orchestres ont fait des émules dans le monde entier à partir donc de l'intuition et de l'engagement de cet homme aujourd'hui disparu, José Antonio Abreu, qui a eu une intuition. Je propose de l'écouter.
En su esencia misma, la orquesta y el coro son mucho más que estructuras artísticas.
Dans leur essence, l'orchestre et les chœurs sont bien plus que des structures artistiques. Ce sont des exemples et des écoles de vie sociale. Parce que chanter et jouer ensemble, cela signifie coexister intimement, en tendant à la perfection et à l'excellence, et en suivant une discipline stricte d'organisation et de coordination, en cherchant une interdépendance harmonique de voix et d'instruments. C'est ainsi qu'ils construisent un esprit de solidarité et de fraternité, développant leur propre estime de soi, favorisant les valeurs éthiques et esthétiques véhiculées par la musique. C'est pourquoi la musique est immensément importante dans l'éveil de la sensibilité, dans la construction de valeurs et dans l'apprentissage des enfants à enseigner à leur tour.
L'entraînement de los jóvenes en la enseñanza de otros jóvenes y de los niños.
Tout est dit. Vous voulez réagir à ces propos du chef d'orchestre José Antonio Abreu, fondateur des orchestres El Sistema?
Alors, j'étais ému tout à l'heure d'entendre la voix de Georges Charpak. Là, je suis ému d'entendre cette voix que je ne connaissais pas. J'ai une admiration profonde pour lui. Il a créé un ensemble d'orchestres, des centaines d'orchestres au Venezuela. Mmh. Il y a un orchestre en particulier qui est allé jouer à Salzbourg, tout de même avec des enfants, une symphonie de Mahler, je crois. Et alors, je trouve ça admirable. Et ce qu'il vient de dire, je ne le connaissais pas, j'ai jamais entendu ce texte, mais c'est magnifique parce que il y a en même temps, vous voyez, la musique nous introduit à la liberté, c'est la liberté du lyrisme, on chante presque librement quand on chante, et deuxièmement il y a le mot discipline, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de la musique dans un orchestre sans une discipline extrême, donc ça c'est toute la vie. Toute notre vie devrait être fondée sur ces deux grands axes qui sont...
Entre discipline et liberté,
oui,
enfin...
Oui, exactement. Liberté, la liberté de penser, dont on vient de parler avec Georges Charpak tout à l'heure, la liberté de créer, et puis tout de même une certaine discipline. On ne peut pas faire n'importe quoi dans la vie. Donc, il a tout dit. Je trouve qu'avec ces orchestres vénézuéliens, il a tout dit.
L'apprentissage aussi, évidemment.
Et
parce
bien
qu'en
sûr,
fait...
alors, il y a tout autre chose. Il y a l'apprentissage, il y a le travail, il y a le travail en commun.
C'est ça, il y a l'individuel et le collectif.
Et évidemment aussi, vous voyez, tout y est. Tout y est. Je trouve ça admirable. Et nous avons en France des pianistes. Je pense à Anne Kefelek, par exemple. Je pense aussi à Miguel Angel Estrella, qui pousse à ce que la musique soit enseignée plus pour que, au fond, elle dissolve un petit peu les tensions, les tendances à la violence que nous avons en nous. Voyez,
la musique se rapproche en cela de la recherche. Elle pourrait être, tout le monde peut se l'approprier en étant plus ou moins doué, en faisant plus ou en travaillant plus ou moins. Mais il y a quand même, il y a quand même ça. C'est quand même aussi un tremplin possible.
Oui, je pense qu'on ne pourrait pas aller infiniment loin dans la comparaison parce qu'il y a quand même des différences, bien sûr. Mais c'est vrai, c'est vrai. Tout le monde est. Je crois que presque tout le monde est capable de faire de la musique et de l'aimer. Et je crois que tout le monde est capable de s'intéresser à la science, même s'il n'en fait pas de façon très poussée. Et je suis triste, aussi bien dans un cas que dans l'autre, je suis triste que si peu, finalement, de personnes s'intéressent profondément à la musique et si peu de personnes s'intéressent à la science dans un pays comme le nôtre.
Alors pour vous rendre un petit peu moins triste, Yves Guéret, vous avez choisi de nous faire écouter Brahms sur RFI, le début de la 4e symphonie. quoi se laisser embarquer sur RFI par le début de la 4e symphonie de Brahms, interprétée par l'Orchestre Philharmonique de Vienne sous la direction de Leonard Bernstein. C'est votre choix, Yves Kéré.
C'était mon choix difficile à faire.
Oui, je vous ai demandé quelle musique choisir. Vous en citez beaucoup dans votre
ouvrage.
En
deux mots, je dirais que d'abord, Brahms m'impressionne beaucoup par sa, disons, par sa timidité d'une certaine façon, alors que c'est un immense génie. Mais il a attendu 43 ans. D'avoir 43 ans pour écrire une symphonie, parce qu'il était tellement impressionné par les symphonies de Beethoven, qui étaient un peu antérieures, quelques dizaines d'années, qu'il n'osait pas, vous voyez. Alors que quand on entend ça, on voit qu'il a largement la stature de Beethoven. Et je me disais tout de suite, en entendant notamment cette fin, là où on entend à la fois la violence des contrebasses, à gauche, si je peux dire, et à droite, les violons qui chantent, que la musique est un merveilleux outil pour nous apprendre un peu la complexité des choses. C'est-à-dire que nous avons en même temps, nous entendons de la musique, ce qu'on ne peut pas faire dans le langage. Quand nous parlons en ce moment tous les deux, vous parlez, et puis je parle, heureusement, nous ne parlons pas ensemble.
Sinon,
on ne s'entend plus. Tandis que là, il y a deux, trois, quatre voix qui parlent en même temps. L'une un peu violente, les contrebasses, l'autre chantante et mélodique. C'est les violents. Vous voyez, voilà.
C'est cette polyphonie,
c'est
cette
polyphonie,
diversité.
C'est une école extraordinaire, au fond, de vie, parce que notre vie, elle est comme ça. Elle n'est pas faite sur une, comme on le disait tout à l'heure, elle n'est pas faite sur une petite ligne sur laquelle on circule. Elle a des chemins à droite et à gauche.
Des ramifications, pour parler d'embranchements, voilà. D'arborescence.
Voilà, et puis nous pensons plusieurs choses à la fois. Nous sommes à la fois quelquefois bons et méchants, nous sommes quelquefois à la fois joyeux et tristes. Et là, la musique l'exprime magnifiquement.
Un coquillage au creux de l'oreille, c'est le titre de votre autobiographie Vagabonde. Je rappelle en passant à nos amis auditeurs que nous avons un exemplaire de cet essai à vous faire gagner, amis auditeurs, si vous nous les demandez par mail ou sur notre page Facebook. Et vous découvrirez que, Yves Kéré, vous avez aussi le goût des mots. Vous venez de le dire, les mots, c'est pas pareil que la musique, mais la question des langues et de la science vous importe. Bien transmettre, c'est-à-dire dire correctement et ne pas se contenter de croire, l'importance des mots et du langage pour le chercheur scientifique que vous êtes.
Oui, je ne suis pas du tout linguiste, donc je suis amateur complètement. Mais tout en étant amateur, on peut être amateur et aimer, d'ailleurs amateur c'est aimer, j'aime les mots. C'est-à-dire que je suis fasciné en effet par le fait qu'il y ait eu des mots créés. Il y a eu un jour quelqu'un qui a créé un mot, un premier mot, puis un deuxième mot, on peut imaginer ça. Et je trouve ça extraordinaire et je sens bien, ça me semble une évidence, que créer des mots au début de l'histoire de l'humanité, ça a été créer la science. C'est-à-dire que la science est née exactement en même temps que naissait le langage. Quand je prends l'exemple du mot arbre, on pourrait en prendre mille autres, mais quand un homme du passé, de notre lointain passé, a devant un objet qui avait un tronc, des feuilles, il a dit arbre dans son langage, il a dit arbre, il était génial cet homme, parce qu'il a compris que un petit buisson rabougri et puis un immense baobab, c'est le même mot, vous voyez, c'est donc de la science, c'est ce qu'on appelle la synthèse. Et puis ses enfants, après, peut-être, en se promenant dans la forêt, ont donné des noms. Ils ont dit ça, c'est un eucalyptus, ça, c'est un pommier, ça, c'est l'analyse. Vous voyez, donc, deux grands domaines de la science, la synthèse et l'analyse, sont immédiatement en marche avec la création du langage.
La création du langage et de toutes les langues, parce qu'il y a aussi une éloge de la diversité hein, dans votre parcours de vie.
Bien sûr, bien sûr. Heureusement que nous n'avons pas qu'une langue. Et je suis désespéré d'apprendre, par exemple, par quelqu'un comme Agege, que je ne sais plus, est-ce que c'est des milliers ou des centaines, je ne sais plus, de langues disparaissent chaque année. Et ça, c'est une catastrophe. On parle de la biodiversité, et on a raison de parler de la disparition d'un certain nombre de plantes, mais c'est encore plus terrible de savoir que des langues disparaissent et qu'on va vers une langue quasiment unique. J'espère qu'on n'arrivera jamais ça. Mais les langues sont merveilleusement différentes, heureusement.
Vous parlez de biodiversité, donc biodiversité du vivant, biodiversité des langues, biodiversité des points de vue. Et vous êtes aussi, alors je ne sais pas si vous étiez féministe avant l'heure, Yves Kéré, mais dans votre livre, vous rendez particulièrement hommage aux femmes, alors à toutes les femmes. On peut citer la vôtre, France Kéré, trop tôt disparue, théologienne protestante qui avait le pouvoir d'éveiller les esprits. Mais les femmes, on ne leur a pas laissé une assez grande place, en science notamment. Enfin, vous le déplorez un peu. Ça, hein.
Oui, alors si on remonte un tout petit peu même avant en effet France, ma femme, je dirais que je suis extraordinairement choqué que ma mère n'ait pas voté avant 50 ans. Vous vous rendez compte ? C'est-à-dire que toutes les femmes, il n'y avait pas que ma mère évidemment, étaient tenues pour des enfants, n'est-ce pas ? C'était des enfants. Bon, ensuite, alors en effet, j'ai été très frappé par l'intelligence de France, et plus que son intelligence, son rayonnement tout à fait extraordinaire dans ses conférences, dans ses livres. Et puis plus généralement, je suis très frappé par, mais c'est une banalité terrible ce que je vais dire là,
allez-y,
par l'importance du rôle des femmes qu'elles doivent jouer et qu'elles ne jouent pas assez. Voilà, je suis en effet, je ne crois pas pouvoir dire que je sois féministe, ça serait un grand mot, je suis simplement très admiratif du rôle des femmes qu'elles ont à jouer, qu'elles, j'espère, elles joueront de plus en plus.
Yves Quéré, autour de la question comment répondre de sa vie, je propose maintenant d'écouter un jeune physicien congolais, Jonathan Essolé, qui lui aussi cherche à répondre de sa vie et aussi à transmettre aux femmes. Spécialiste de la théorie des cordes, il est aujourd'hui professeur aux États-Unis à la Northwestern University et lauréat du forum Next Einstein in Africa, très investi donc dans l'éducation des jeunes en général et dans la transmission notamment en RDC où il enseigne par mail, la physique à des jeunes filles qui habitent loin des villes à travers l'association Maleika. Écoutez son éclairage recueilli à Kigali lors du forum Next Einstein in Africa, le prochain ou plutôt la prochaine Einstein viendra peut-être d'Afrique.
La science n'a pas de limite et elle nous permet aussi de rêver. Il y a des gens qui ne vont pas devenir scientifiques de carrière, mais qui, dans leur enfance, ont eu l'occasion de rencontrer ou d'entendre parler de personnes qui ont réalisé leurs rêves à travers les sciences. Et ça peut, pour eux, être une motivation de faire ce qu'eux ont l'intention de faire dans la vie. Donc, moi, je pense que le plus important, c'est de laisser les gens aller au bout de leurs rêves. On ne va pas empêcher un musicien de faire sa musique, on ne va pas empêcher un danseur de danser, on ne peut pas empêcher un penseur de penser. Donc il y a un scientifique dans chacun de nous, donc, les enfants sont tous des scientifiques, et moi je pense qu'on peut être une fille, on peut être un petit garçon, on peut être au Congo, il n'y a pas besoin d'essayer de définir ce qu'on veut être par sa localisation géographique, qui est vraiment un détail cosmologique.
La localisation géographique, c'est vraiment un détail cosmologique, jolie formule du jeune physicien Jonathan Essolé. Vous voulez réagir, Yves Quéré ?
Je trouve très beau ce qu'il a dit. On ne peut pas empêcher, en effet, un danseur de danser et un chercheur de chercher. Ça, c'est tout à fait vrai. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce qu'il dit, c'est qu'il y a une localisation de la science, incontestablement. Mmh. Il y a eu, par exemple, la grande science chinoise. C'est très mystérieux, je crois. Je ne suis pas spécialiste, mais je crois que c'est un peu mystérieux de savoir comment tout d'un coup elle s'est arrêtée. Il y a eu une grande science islamique, iranienne en particulier. Elle s'est arrêtée. Maintenant, il est évident, c'est pas la peine de le nier, que la science est occidentale. C'est l'Europe, c'est les États-Unis, etc. Peut-être ça va s'arrêter et peut-être le relais sera pris par l'Afrique, qui sait. J'ai juste un témoignage à ajouter ici, c'est j'ai beaucoup visité des pays africains, évidemment pas tout à fait au niveau de la recherche, mais au niveau de l'école primaire, et je peux dire, je crois, que la plus belle leçon de la main à la pâte, c'est-à-dire leçon de science pour des enfants qui avaient 10 ans à peu près, la plus belle leçon que j'ai vue dans tous les pays où je suis allé dans, sans doute, dans, j'ai vu des écoles dans peut-être une quarantaine de pays, évidemment incluant la France, et bien c'est au Togo que j'ai eu une leçon, je n'ai pas le temps, évidemment on n'a pas le temps d'en parler plus longuement, mais une leçon extraordinaire qui montrait une appétence d'abord de ces enfants de 10 ans, ils parlaient très bien français, dans un petit village perdu du Togo, avec un maître exceptionnel, et bien je me disais en écoutant ces enfants qui réagissaient sur les problèmes de pression, etc., et de vent, eh bien, je me disais, là-dedans, il pourrait y avoir des grands savants.
Il suffit de les encourager, d'où l'idée donc que vous avez eue, vous venez de le rappeler, de lancer cette fondation aujourd'hui internationale, La Main à la Pâte, avec le prix Nobel Georges Charpak, avec le physicien Pierre Léna. Pierre Léna, le titre d'un de ses ouvrages, c'est « Enseigner, c'est espérer ». Ça aurait pu être le titre de votre livre aussi.
Très beau titre. Très beau titre. C'est espérer aller plus loin, effectivement, à la fois personnellement et pour le pays ou pour la société. Alors oui, pour répondre à votre question, oui, cette opération a été lancée initialement par Georges Charpak, et puis Pierre Léna et moi, nous l'avons rejoint.
Et c'est vraiment pour développer la science à l'école, à l'école primaire, et puis pour l'incarner, hein, la main à la pâte, la main dans le, pas oui, dans le cambouis, mais dans...
Oui, c'est pour que les enfants apprennent la science, les enfants de l'école primaire, n'est-ce pas, c'est bien clair, dans la joie. C'est-à-dire que pour eux, ça soit une joie. Et plutôt que, c'était ça l'idée initiale de Georges Charpak, c'était plutôt que les enfants lisent une phrase de science au tableau à laquelle ils peut-être ne comprennent rien et qu'ils l'écrivent sur leur cahier et qu'ils l'apprennent par cœur, eh bien non. Plutôt que les enfants apprennent la science en la faisant, avec leurs mains, mais bien sûr avec leur cerveau, plus encore qu'avec leurs mains, mais la main à la pâte. Et d'ailleurs, ça s'est répandu en effet un peu, je dirais, dans le monde entier, avec des noms Absolument. Différents. Mais par exemple, les Anglais, les Américains disent « hands on », vous voyez, les mains dessus. Les Suisses, très intelligemment, je trouve, disent « pensez avec les mains ». Vous voyez, c'est-à-dire, ils introduisent dans cette petite phrase « pensez avec les mains », il y a à la fois le cerveau et les mains. Donc voilà, les enfants font une expérience, ils posent une question... Ils font état de leur curiosité. C'est un des premiers mots qu'il faut utiliser pour la science. Il faut être curieux de la nature. Poser pourquoi, comment, est-ce que, vous voyez, une question. Et le maître les guide sur une petite expérience à faire sur la table, très simple à monter. Et puis, de cette expérience va naître une vérité.
Voilà. Et la main à la pâte a fait des petits, hein, on l'a dit, dans le monde entier. C'est désormais une fondation internationale avec des relais sur tous les continents. Ces relais, il faut le dire, ce sont souvent des chercheurs de bonne volonté qui s'impliquent, hein, individuellement et collectivement. Je propose d'écouter l'éclairage au Mali d'un chercheur que vous connaissez, Amadou Koné, organisateur du projet d'éducation à la science et à la santé au Mali, de la fondation donc la main à la pâte. Il est aujourd'hui chercheur au centre d'infectiologie Charles Mérieux. Raphaël Constant l'a joint par téléphone et il a même une question pour vous, Yves Kéré.
C'est un projet qui fait la promotion de l'enseignement des sciences dans les écoles. Parce que, bon, comme tout pays qui a vocation à se développer, il faut développer les sciences, les technologies, les mathématiques et la médecine. Les écoles ne sont pas équipées en matériel didactique pour bien enseigner les sciences. Donc, c'est un projet qui forme les enseignants à faire de la science par une méthode basée sur l'investigation. Donc, centrée sur l'enfant, qui va s'impliquer dans les pratiques avec, bien sûr, du matériel de récupération. Hein. Donc, c'est pourquoi c'est bien pour un pays pauvre comme le Mali. On n'a pas besoin d'un laboratoire hyper équipé. Donc, l'enseignant peut encadrer l'enfant dans l'investigation, à se poser une question, à développer une méthodologie scientifique progressivement avec l'accompagnement de l'enseignant.
Pour vous, comment on éveille les jeunes élèves aux disciplines scientifiques?
Déjà, un enfant naturellement aime s'amuser, aime toucher les objets, aime comprendre, aime découvrir son environnement. Donc, l'enseignant se base sur ça. Donc, il amène des objets. L'enfant est très impliqué là-dedans. Il pratique, il manipule, il se pose des questions, il échange avec ses camarades. Et progressivement, il va aimer, en fait, cette pratique-là. Donc, c'est vraiment, l'enseignement scientifique ludique vient découvrir progressivement en s'amusant. Donc, si on arrive à faire aimer la démarche scientifique par l'enfant, naturellement, il va vouloir poursuivre plus tard là-dedans et du coup, il deviendra un scientifique. Et voilà, donc j'espère qu'à terme, on va arriver à atteindre notre objectif qui est d'augmenter le nombre de scientifiques au Mali.
Et pour finir, est-ce que vous auriez une question à adresser à Yves Kéré, notre invité?
Alors, comment lui voit le développement des sciences en Afrique de façon générale? Parce que bon, les Africains, ils brillent beaucoup, souvent c'est le cas quand ils sont en dehors de l'Afrique, en Occident, je veux dire en Europe ou en Amérique. Quelle stratégie ou quel conseil il aurait à donner aux politiques, aux pouvoirs publics en Afrique pour que la science se développe?
Quel pourrait être votre conseil qui irait comment développer les sciences, l'enseignement comme la recherche hein, sur le continent africain?
Je voudrais dire d'abord que nous connaissons bien Amadou Koné, nous avons des relations très fortes avec le Mali, avec beaucoup de pays d'Afrique, mais notamment avec le Mali. Moi, je suis allé à Bamako et là, il y a des écoles merveilleuses. Nous avons une action, un vivier, un enthousiasme. Et puis, donc, nous avons cette action très forte qui est soutenue par la Fondation Charles Mérieux. Elle se développe vers l'infectiologie. Bon, bref.
Oui, liée vraiment aux problématiques.
Très liée, bien sûr. aux problèmes locaux. Et au fond, c'est un peu ça que j'aurais tendance à lui répondre. Je n'ai pas de réponse toute faite. Mais il faut d'abord, je crois, que son effort sur l'école primaire continue et s'amplifie. Ça, c'est là, c'est évidemment vers 5, 6 ans, quelquefois même plus jeune, qu'un enfant peut se passionner pour la science, en tout cas certainement 5, 10 ans, et que quand ils auront, ça prend du temps évidemment, quand ils auront 20 ans, peut-être se lanceront-ils plus facilement dans des études scientifiques. C'est quand même le départ, ça. Mais plus précisément pour l'Afrique, je pense d'abord, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, le pays est vierge et d'une... au point de vue scientifique, ou presque vierge. Mais c'est justement une chance. C'est-à-dire qu'ils peuvent reprendre le relais, comme je le disais tout à l'heure, des grandes sciences chinoises, etc., et occidentales peut-être. Mais plus précisément encore, je crois que nous parlions à l'instant d'infectiologie. Je crois que l'important, c'est que dans une région donnée, la région africaine, on intéresse les enfants et les jeunes à la science telle qu'elle a des intérêts locaux, si je peux dire. C'est-à-dire que c'est pas la
comment
peine.
Les recherches peuvent être appliquées,
voilà,
finalement.
Voilà, on faisait des grands cours sur les glaciers au Mali. Bon, très bien, c'est les glaciers, il y a
c'est
beaucoup
un peu
de
loin,
science.
Oui.
Il y a beaucoup de science dans un glacier, mais vous voyez ce que je veux dire.
Oui.
Bon, donc voilà, je crois que l'Afrique a des problèmes très spécifiques, notamment en matière de santé. Donc je crois que orienter des jeunes esprits curieux, intéressés par la science, à des problèmes, les intéresser à des problèmes locaux, à leur donner l'impression qu'ils peuvent être utiles, non seulement joyeux de faire de la science, mais utiles à leur pays et à leur société. Alors là, je crois qu'on peut gagner.
Vous avez employé plusieurs adjectifs, hein, curieux, joyeux, ce serait ça les grands adjectifs pour faire de la science ou de la bonne science, dans un esprit, on a bien compris, plutôt humble, hein. C'est clair, vous n'aimez pas les... Vous le dites à la fin du livre, vous n'aimez pas certaines familles de gens qui croient tout savoir.
Ah non, non, ça certainement pas. Curieux, c'est un mot que j'aime bien. On sait qu'il vient de cura, le latin, que c'est le mot qu'on retrouve dans take care, quand les Anglais disent take care, ou bien quand nous disons je vais faire une cure, c'est le même mot. C'est-à-dire que c'est un mot qui évoque le soin qu'on porte à quelque chose. Si je veux faire une cure, c'est je prends soin à moi, à mon corps. Donc être curieux, c'est prendre soin de la nature d'abord, vous voyez, et puis l'aimer au fond. Et donc il faut aimer la nature, il faut aimer l'environnement, évidemment humain aussi. Donc je crois que la curiosité est une des premières nécessités.
On se rend compte de l'importance de l'émotion et des émotions. En vous lisant aussi, hein, votre appétence pour la musique, et sans doute pour quelque chose, Yves Quéré, mais c'est vrai que je reviens à cette idée de scientifique qu'on voit plutôt froid dans sa tour d'ivoire. Ce n'est pas du tout votre cas. Le sensible est très important, avec les sens, hein, vraiment, l'émotion aussi.
Il y a eu une thèse faite il y a 15 ans maintenant, à Paris, sur les dessins que font les enfants, à, je sais pas, 10 ans à peu près peut-être, les dessins que font les enfants sur un savon. On leur dit dessiner un savon. On disait savon autrefois, maintenant on dirait scientifique. Et alors, quand ils n'ont pas fait de science, genre la main à la pâte, le savon est quelqu'un d'horrible. Affreux. Il a un chapeau pointu, il y a des éclairs partout, il a une figure épouvantable, il a la barbe. Bon, c'est épouvantable. Et puis alors, la thèse consistait à faire refaire, c'était même la fosse marin, les mêmes dessins, la même question, après qu'ils aient fait
la main à la pâte.
Complètement différent. Mais complètement, vous voyez, à ce moment-là, ils s'aperçoivent que la science, c'est agréable à faire, c'est joyeux. Ils le font à plusieurs, donc tout d'un coup, sur le dessin, apparaissent d'autres personnes, des femmes, alors que le savant était toujours un homme. Là, il y a des femmes, on est heureux. C'est tout à fait extraordinaire comme travail.
Vous avez les yeux qui brillent d'ailleurs en disant ça. Émotion en science et en musique, autour de la question comment répondre de sa vie, par exemple en écoutant Glenn Gould sur RFI, la dernière variation des variations Goldberg, votre morceau choisi.
Thank you.
La dernière des variations, Goldberg sur RFI. Vous avez choisi de nous mettre Glenn Gould au creux de l'oreille, Yves Quéré.
Oui, oui. On a tous découvert les variations de Goldberg avec Glenn Gould. Et elles sont maintenant jouées par d'autres pianistes, mais il a joué un rôle important. Et ça m'a tenté de mettre une variation, et ça, quelle variation ! Nous sommes un petit peu ici au sommet quand même de l'art musical. Et une variation parce que je trouve que la variation en tant que telle en musique est quand même un passage important, une forme importante, parce que elle colle à nous. Nous sommes nous-mêmes dans notre vie, puisqu'on parlait de la vie tout à l'heure. Nous sommes dans les variations. Une variation, c'est un thème d'abord. Il y a un thème, petite musique, et puis après il y a les variations. Alors il y a évidemment des variations qui sont gaies, tristes, mélancoliques, agressives, il y a tout ce qu'on veut, et c'est notre vie, ça. Nous sommes successivement un petit peu tout ça, et je trouve que en soi la forme variation est importante pour coller à notre vie.
Vous avez toujours eu ce sentiment-là, ou c'est avec l'âge que vous le ressentez encore
c'est
plus?
C'est un peu quand même, peut-être avec l'âge. Non, quand j'étais plus jeune, je n'ai pas toujours pensé ça. J'écoutais les variations avec beaucoup de plaisir. mais là, et celle-ci, c'est l'avant-dernière, enfin c'est la dernière variation plutôt, avant la reprise du thème, de l'aria initiale. Elle récapitule tout, je trouve. Elle est tout à la fois. Elle est un peu grandiose, elle est simple, elle est noble, elle est... pas gaie, mais elle est très positive.
Ouais, la joie, c'est tout aussi.
Il y a tout, il y a tout.
Un coquillage au creux de l'oreille, je le rappelle, c'est le titre de votre autobiographie libre et vagabonde, Yves Quéré, qui vient de paraître aux éditions Odile Jacob, et dont nous avons encore un exemplaire à vous faire gagner, amis auditeurs, avis aux amateurs. Alors vous, Yves Quéré, qui avez consacré une grande partie de votre vie, de votre carrière de chercheur à la transmission, notamment, on l'a dit, avec la Fondation La Main à la Pâte, autour de la question comment répondre de sa vie, nouvelle question pour vous, soulevée par un autre physicien et philosophe des sciences, Étienne Klein, qui était récemment notre invité.
Bonjour Yves Quéré. Quel bilan faites-vous de la transmission des connaissances? Je sais que vous êtes quelqu'un de très enthousiaste. Vous avez passé beaucoup de temps, notamment par le biais de La Main à la Pâte, à transmettre des connaissances de physique ou de sciences en général. Est-ce que vous pensez que le bilan est satisfaisant? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les connaissances soient davantage partagées selon vous?
Votre réponse, Yves Quéré.
Alors, en effet, je crois qu'il y a dans cette interrogation, il y a une certaine, un certain désir qu'on aille plus loin. Mmh. Et c'est vrai que ça ne sera jamais fini. Il n'y a pas du tout un moment où, que ce soit La Main à la Pâte ou toute autre chose, ou toute autre tentative d'enseignement, toute autre méthode, il n'y aura jamais une fin. Donc, la première réponse, c'est ben, nous sommes en route. La deuxième réponse, c'est en effet, ça ne va pas aussi vite ni aussi loin qu'on l'aimerait. Il y a des résistances. Alors, je peux dire lesquelles. Il y a des résistances en France et ailleurs. Hein, c'est tout à fait uniforme. Il y a une façon d'enseigner qui est antinomique de La Main à la Pâte, qui est ce qu'on appelle l'enseignement frontal. C'est-à-dire que le maître donc,
sur l'estrade
est sur l'estrade, oui, en disant un peu les choses comme ça, il est sur l'estrade, il parle, il écrit des choses au tableau, et les enfants ne disent rien. C'est un cas extrême. Mais on a ça, et c'est quand même un peu plus facile. C'est plus facile d'écrire au tableau l'eau bout à 100 degrés C, et puis d'attendre que les enfants aient écrit ça, et puis qu'ils l'apprennent par cœur pour demain matin, que de faire l'expérience de l'eau qui bout, le thermomètre qui monte à 100 degrés, puis ça s'arrête, et puis pourquoi est-ce qu'il s'arrête le thermomètre, pourquoi est-ce qu'il ne va pas plus loin, et ça s'arrête, vous voyez, et les enfants vont poser des questions, et je ne saurais peut-être pas répondre, ce qui est tout à fait normal, je ne peux pas tout savoir. Donc il y a une résistance, mais on la voit aussi bien en Europe, en Afrique, partout, de maîtres qui ont plutôt envie d'apprendre de façon, d'enseigner de façon frontale. Donc voilà, il faut surmonter ça, il faut que dans tous les domaines, on tienne le coup, et il faut qu'il y ait des gens comme Étienne Klein aussi qui parlent de la science à plus haut niveau, n'est-ce pas ? Faire des conférences sur la science, intéresser un grand public. On disait tout à l'heure que le grand public s'intéresse finalement assez peu à la science.
Alors place... que ce sont des enjeux et des questions qui nous concernent
mais
tous.
Oui, votre émission est excellente de ce point de vue-là, vous parlez de la science, mais... finalement, les grands journaux parlent assez peu de science. Il y a eu une découverte prodigieuse il y a quelques mois qui est celle des ondes gravitationnelles.
Détection des ondes gravitationnelles.
C'est incroyable comme découverte, n'est-ce pas ? On attendait ça depuis des décennies. Eh bien, c'est quelques lignes souvent en page 7 des journaux, vous voyez, alors que la moindre petite parole d'un homme politique est en première page. Alors voilà, Je crois qu'Étienne Klein a raison de s'inquiéter un petit peu que ça n'aille pas plus vite.
Et on voit là aussi votre intérêt, alors pour les questions qui peuvent être d'éthique, pas pour l'engagement, hein, d'éthique politique, vous avez un peu envie, non pas de nous réveiller, mais de nous éveiller un peu à ce qui est vraiment important. Vous parlez du temps aussi, du temps qui passe et du temps qui ne s'arrête pas précisément sur peut-être les événements les plus importants. Vous avez un peu envie de nous éveiller, nous secouer un petit peu ?
Non, j'ai pas du tout. J'ai personne à secouer, absolument pas. Mais je peux en effet revenir un instant, on en parlait tout à l'heure, sur les problèmes d'éthique et notamment de violence. Mmh. C'est-à-dire que nous vivons dans un monde extraordinairement violent. Et il se trouve, le hasard fait que demain, nous avons des réunions à l'Académie des sciences tous les mardis, et il se trouve, c'est le hasard, que demain nous avons la réunion d'un comité de l'Académie des sciences qui s'appelle le CODOS, qui est le, si on met CODHOS, on trouve Comité des droits de l'homme de science. C'est-à-dire que c'est un comité qui se réunit une fois par mois, et encore une fois c'est demain, et qui s'occupe des violations, et elles sont malheureusement terriblement nombreuses et terriblement violentes, des violations des droits de l'homme pour des hommes et des femmes de science. Alors voilà, et chacun peut s'occuper de ses problèmes de droits et de devoirs aussi, d'ailleurs, ça va ensemble, dans le monde, en France d'abord, évidemment, et dans le monde, voilà, je crois que le scientifique n'est pas du tout quelqu'un, en général, en tout cas, il ne doit pas être, en tout cas, quelqu'un qui est enfermé dans son laboratoire, ou dans son bureau, ou sur son ordinateur, il doit aussi, évidemment, être mêlé à la société, et ceci d'autant plus que la science comporte un certain nombre d'applications qui sont quelquefois un petit peu inquiétantes.
Et que vous n'hésitez pas à remettre en question, on va y revenir, hein. Mais on fait une petite pause musicale, même si je n'aime pas ce mot, pour écouter un groupe qui est encore votre choix, le Modern Jazz Quartet, avec un morceau d'anthologie, Bluesologie, sur RFI. Modern Jazz Quartet, choisi par notre invité Yves Quéré, autour de la question comment répondre de sa vie et de ses engagements. Quel regard portez-vous, Yves Quéré, sur des questions d'actualité, sur nos mutations en cours, notamment sur le rapport à la vérité, à la science et à ses mystères, hein, pour reprendre le titre d'un de vos chapitres. C'est précisément la question que vous pose un autre physicien, Gabriel Chardin.
Un sujet qui m'intéresse actuellement, c'est fake science, fake news. Et pour moi, c'est une vraie question, c'est-à-dire que la désinformation, le mensonge le plus éhonté, l'ignorance la plus crasse, prennent place avec insolence. Et quelle est la meilleure stratégie pour arriver à lutter contre ça, pour éviter un futur qui peut être 1984 en pire ?
Vous avez des pistes, Yves Quéré, pour lutter contre ces fake news, fake science, ces contre-vérités?
Eh bien, écoutez, cette question est évidemment intéressante. Elle rejoint la question de savoir pourquoi j'ai mis Modern Jazz Quartet. Je voudrais y revenir une minute.
Bien sûr.
À la fois parce que j'ai beaucoup aimé le Modern Jazz Quartet, mais ce n'est pas pour ça que j'ai mis ça. C'est parce que nous devons comprendre dans le monde, notamment africain, qu'il y a une entente extraordinaire entre nos musiques et les musiques africaines. Mm-hmm. J'ai été très triste plutôt, de savoir qu'il y a 2 ans, dans les manifestations assez violentes, dans les certaines universités d'Afrique du Sud, notamment le Witwatersrand, essentiellement cette université-là, eh bien, il y avait une accusation très grave portée contre la musique classique européenne, qui était considérée comme une musique qui tuait, qui avait nié la musique de jazz, justement, la musique africaine, et qui finalement, alors ça arrivait à une accusation extraordinairement grave, favorisait l'apartheid. Vous voyez, autrement dit, Mozart, Bartok sont des partisans de l'apartheid. Vous voyez à quoi on arrive.
Alors, voilà une contre-vérité absolue, voilà, et un raccourci beaucoup trop rapide.
Un raccourci terrible. D'abord, Mozart ne connaissait pas la musique africaine. Bon, ça, c'est autre chose. Mais dès qu'on a commencé à connaître la musique africaine en Europe, peut-être dans les années 20, immédiatement, les grands musiciens s'en sont emparés et ont aimé. Ravel met du jazz, et puis un homme comme Gershwin a été un lien assez fort entre une musique assez classique et une musique... Donc voilà, je crois qu'on ne peut pas laisser dire des accusations, on ne peut pas laisser des accusations pareilles tenir la route, parce que la musique est au contraire un lien entre les hommes. Ça ne peut pas être une arme pour des options aussi horribles que l'apartheid. Alors voilà, voilà, ça c'est une fake news après tout. Et je peux en prendre sur la question qui est en effet très grave. Il est paradoxal de voir que nous avons une science qui avance extraordinairement vite, que nous avons tous les moyens, ne serait-ce que des émissions comme la vôtre, de connaître mieux la science, de savoir, nous avons des livres, nous avons des Étienne Klein qui en parle magnifiquement, nous avons tout ce qu'il faut pour connaître la science, et en même temps, plus sans doute que jamais ça n'a été, on répand des bruits absolument fous, que par exemple, les hommes ne sont pas allés sur la Lune, que ça a été fait dans un hangar en Californie, que les films, que...
Oui, c'est ça, dans le même temps, il y a une avancée énorme des connaissances, et en même temps un recul, enfin...
Sur l'évolution, par exemple, n'est-ce pas ? Il y a, notamment aux États-Unis, je dois dire, un courant très fort. Des amis de l'Académie américaine des sciences me disent que c'est environ entre 30 et 35% d'enfants à qui on apprend, dans les écoles publiques, qu'il n'y a pas eu d'évolution. L'évolution est une fake news, justement. C'est une fausse nouvelle, vous voyez.
Donc,
il y a
comment faire, Yves Quéré ?
Alors, comment faire tout ça ? Évidemment... Enseigner, c'est-à-dire toujours, il n'y a pas d'autre méthode, je crois. On ne va pas
enseigner et incarner.
On va pas mettre en prison. On va pas mettre en prison des gens qui disent que il n'y a pas eu d'évolution ou que la Terre est née il y a 8500 ans. Vous voyez, on peut pas les mettre en prison. Comment faire ? Moi, je ne sais pas trop, mais évidemment, enseigner et tenir très haut le drapeau de la vérité, c'est tout.
Merci Yves Quéré, c'est ce que vous faites en tout cas dans votre ouvrage dont je rappelle le titre, Un coquillage au creux de l'oreille, sous-titré Science, éducation et autres rivages, dont il nous reste un exemplaire et un seul à vous faire gagner, amis auditeurs. Merci beaucoup Yves Quéré d'être venu en direct partager toutes ces pistes d'émerveillement, d'interrogation, et je ne saurais trop conseiller la lecture de votre livre, et à bientôt dans notre
studio. Merci, à bientôt peut-être, oui, merci.
Autour de la question sur internet, www.rfi.fr.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter, à nous podcaster sur le site de RFI. Merci à Nicolas Benita à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses. Au plaisir de vous retrouver demain autour des états généraux de la bioéthique pour nous demander quelle bioéthique à l'ère numérique. Piste de réponse demain. Donc d'ici là, portez-vous bien. Surtout restez curieux, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, le prochain journal, c'est dans une petite minute.